Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h06, vous êtes sur RMC à l'écoute de l'afterfoot avec Maxime Chano et Lionel Charbonnier. On est ensemble jusqu'à minuit. On va reparler des Bleus. Vous le savez, Ryan Cherki a inscrit son deuxième but en équipe de France hier soir. On rappelle qu'il a 4 titularisations et 6 sélections. Ça va très vite pour l'international français. On va écouter Didier Deschamps sur la prestation du joueur de City.
Il sait faire, pour ça que c'est bien qu'il le fasse, bien évidemment. Donc tant mieux pour lui déjà, et puis pour l'équipe, puisque ça nous permettait de mener 1-0. Donc, il y en a beaucoup de qualité. Il y a eu une bonne complémentarité avec Michael Olisée. Quand tout le monde sera disponible, ça fait beaucoup de joueurs. Mais à eux, ceux qui commencent, ceux qui seront menés en rentrée, en sorte d'être décisifs.
Messieurs, Ryan Cherki donc était titulaire hier, c'est lui qui a marqué le but français. Qu'est-ce que vous avez réellement pensé de son match? Parce qu'effectivement, il a touché beaucoup de ballons, il a été très inspiré, il a marqué, mais il y a eu aussi parfois un petit peu trop de Cherki, trop de touches de balles.
Pour moi, c'est son axe de progression. Il me semble que Guardiola l'a dit aussi, son axe de progression. Alors c'est quelqu'un qui peut te retourner un match. Il est extraordinaire. Je ne vais pas revenir sur ses qualités, ouais, notamment offensives, défensives. Il peut aussi, on l'a vu faire des efforts défensifs. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'axe de progression, c'est que il joue de la même manière, pratiquement de la même manière, lorsque il est en bloc médian, lorsqu'il dézone en bloc médian, voire pour les sorties de balle, où il va prendre les mêmes risques en bloc médian que dans les 30 mètres adverses. Ça, c'est un souci pour moi, parce que c'est un jeu à risque. On l'a vu dans ses stats. Il perd énormément de ballons, mais c'est son jeu qui est comme ça.
Et c'est un jeu à risque.
Mais bien évidemment. Alors qu'il perde les ballons à la limite des 30 mètres parce qu'il tente des choses extraordinaires, parce qu'il crée des choses, parce que oui, il faut prendre des risques et tout. Là, super. Mais dans les sorties de balles. Parce qu'il c'est quand même son métier normalement, son poste pour faire la relation entre les milieux, voire les arrières et les attaquants. Lorsqu'il se retrouve en bloc médian, voire médian bas, là il doit pas prendre de risque, il doit épurer son jeu. C'est son axe de progression. Quand il aura fait ça, honnêtement, ça va devenir un très 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 grand joueur. Ouais. Il faut qu'il comprenne ça, qu'il soit très simple intérieur de pied. Tu vois, je compare. Alors j'ai vu qu'on le comparer aussi un petit peu à Zizou, c'est pour l'instant très prématuré. La différence qu'il y a entre l'aspect créatif et Zizou, il y en a pas énormément avec Ryan Cherki entre les deux. Par contre, dans les sorties de balles, le bien qu'il te fait, Zizou, il était clinique, c'était intérieur de pied, extérieur de temps en temps, mais jamais risqué. Là, Ryan, c'est son problème. C'est ce qui m'a un petit peu déplu. C'est ce qui déplaît aussi, je pense, à Dédé. C'est évident.
Ouais. Et puis il y a des comparaisons avec Zidane, on en a entendu parler quand même avec beaucoup de joueurs, et on sait qu'en règle générale, à chaque fois qu'on a comparé des joueurs aux grands ZZ,
ils sont perdus.
Ça s'est jamais très très bien terminé.
Alors, c'est sûr que la une de Marvin Martin, voilà, qui avait marqué un doublé pour sa première sélection comme ZZ, c'était pas très opportun.
On en a des très très bons joueurs, et alors là je vais rejoindre Lionel par rapport à la qualité de Cherki. C'est un joueur exceptionnel. On a une chance incroyable d'avoir un joueur comme lui en équipe de France. Il arrive en bon moment entre guillemets à cette Coupe du Monde. Il faut pas oublier que la saison à Manchester City a été bonne, mais n'a pas été incroyable. Excusez-moi, alors je sais que je vais me faire tomber dessus et je vais essayer de tempérer mes propos. On m'a posé la question si oui ou non Cherki devait être titulaire à cette Coupe du Monde. Voilà, moi je me suis positionné de cette manière, c'est-à-dire que je pensais que c'était un pari de lancer Cherki dès le début de cette compétition. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne sait pas vraiment comment il va réagir à ce genre de compétition. On sait aussi que la Coupe du Monde, c'est une compétition qui est très rapide. Si tu loupes ton premier match, tu te mets dans des difficultés. T'es censé le savoir, Lionel, je sais que tu vas confirmer que le premier match de cette compétition doit être très bien réussi. Et en l'occurrence, pour être réussi, souvent, tu mets quand même des joueurs qui ont des certitudes. Alors, certains vont me dire que Dembélé, que Désiré Doué n'ont pas des certitudes. Mais avec le PSG,
non,
c'est
mais
quand
Dembélé,
même des leaders.
De toute façon, il a beaucoup de sélections avec les Bleus, même s'il n'a pas oui, de oui. match mais référence.
Ça reste quand même des joueurs installés avec l'équipe de France. Alors, pour revenir à Cherki, c'est un super joueur. Je trouve qu'il a fait une très, très bonne première mi-temps, en effet, contre la Côte d'Ivoire. Il y a eu un peu plus de déchets sur cette deuxième mi-temps. Donc,
Il a voulu en faire un peu trop, modéré
par rapport à mon analyse, de le voir, oui ou non, titulaire en équipe de France. Il ne faut pas oublier, et tu l'as dit très justement aussi, Lionel, que cette Côte d'Ivoire a laissé justement le ballon à l'équipe de France, qui a permis à Cherki de pouvoir briller entre les lignes. Il a aussi brillé parce que justement, tu n'avais pas Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Avec les deux Parisiens, le jeu aurait été complètement différent et on aurait sûrement vu un Cherki un peu moins présent dans la possession de balle. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est un super joueur. On va en avoir besoin. J'avais dit qu'il serait intéressant sur les 20-30 dernières minutes de chaque match, justement pour peut-être débloquer des situations où on ne sait pas, l'équipe de France peut être menée contre un bloc bas, et c'est vrai que quand tu as un Cherki entre les lignes, c'est très intéressant. De là, de le voir commencer titulaire avec cette équipe de France en ayant joué seulement 4 ou 6 matchs.
6 matchs et 4 comme titulaire.
Voilà, 4 titulaires, 2 buts. Je trouve que c'est un risque que l'équipe de France et Didier Deschamps ne peuvent pas prendre, d'autant qu'on est quand même assez fourni dans ce secteur offensif.
Alors moi, je le verrais bien titulaire, tu vois, pas le premier. Mais le
donc
deuxième match contre l'Irak, c'est Sénégal, Irak, Norvège.
C'est possible.
Exactement.
Donc toi, tu veux le mettre finalement titulaire face au moins fort?
Non, c'est parce que contre l'Irak, ça va être encore plus
petits espaces pour lui.
Ouais, ça va être encore plus réduit. Ça, c'est la première des choses. Je le vois rentrer, par contre, contre le Sénégal.
Mais je pense que c'est le
genre de jeu et tout ça pour apporter, parce que il t'apporte beaucoup de choses. C'est hallucinant. Il peut te créer quelque chose de neuf qui peut surprendre justement les Sénégalais. Contre l'Irak, je le vois plus et même avec s'il y a un Désiré Doué ou un Dembélé. Il y a pas de. Pour moi, c'est pas le, c'est
ah,
pas
tu
le
pourras
souci.
Pas tous les faire jouer Lionel hein.
Non mais je t'enlève au Lysée.
Tu
mets pas titulaire au Lysée.
Non c'est pas ça, c'est si tu fais jouer Cherki, si je suppose que tu peux pas faire jouer les deux.
D'accord.
Il a raison,
oui,
c'est
mais pour le Sénégal voilà. Le titulaire c'est au Lysée.
Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir le même profil?
C'est pour ça que je disais Doué, Cherki et
Dembélé.
Voilà. Mbappé.
Ouais, de toute façon, tôt ou tard, tu pourras
moi,
pas
je
faire
vois
jouer.
Comme ça.
Tu pourras
mais
ni
je...
faire jouer Olysée et Cherki ensemble.
Mais je pense que c'est quand même prématuré, personnellement, et dans la tête de Dédé, c'est prématuré de le mettre. Et d'autant plus qu'il va falloir préparer aussi. Normalement, si tout se passe bien, les phases les huitièmes, les huitièmes quart, demi, j'espère. Ouais. Et donc là, il va falloir que t'aies des certitudes. Et pour moi, il aura aucune certitude. Et notamment, tu risques de ne pas toujours avoir dans les huitièmes quart et demi, si on y va, d'avoir la possession de balle. Et là, c'est un vrai gros risque parce qu'on l'a vu lorsque tu dois ressortir les ballons de derrière. Il te perd des ballons et là t'es en complet déséquilibre. Alors contre des équipes moins fortes, oui, ça peut passer parce que tes arrières sont là, machin. Mais quand tu vas tomber sur des, pourquoi pas des Kane ou enfin des ténors de devant, faut pas leur laisser la moindre occasion.
Bien sûr, je pense
là-dessus, Dédé, non. Et puis peut-être qu'il va monter en puissance
bien sûr,
selon bien évidemment.
Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à la qualité de ce joueur. C'est juste exceptionnel d'avoir un talent comme ça en équipe de France. Il est encore jeune, 22 ans. Il faut pas oublier que c'est aussi ses premières saisons au très très haut niveau, et spécialement avec Manchester City. Moi je sais, en tout cas je suis convaincu que dans les années à venir, ça va être quelqu'un qui compte pour cette équipe de France. Maintenant, sur le très court terme, sur cette compétition qui s'annonce quand même assez élevée,
pas même chose
avec des blocs bas, avec des équipes qui vont être compétitives.
On l'a vu hier, ouais.
Lancer Ryan Cherki titulaire dès le premier match, je mets quand même un point d'interrogation.
Dans quelques instants, on sera avec Julien qui veut parler effectivement de Ryan Cherki. Il est avec nous au 32-16 sur RMC. Un petit mot également sur l'équipe de France qui joue ce soir en Pologne, et les Bleus de Laurent Bonadei se sont imposés 2-0. Mallard et Baltimore sont les buteuses. On rappelle que c'est un match qui est qualificatif pour la Coupe du Monde 2027, et donc les Bleus ont pris 3 points très importants en vue des qualifications. C'était pour le compte de la 5e journée. Dans quelques instants, on continue de parler de Ryan Cherki et notamment de sa communication, parce que hier il a été extrêmement cash, extrêmement franc, mais alors là c'est pas du Didier Deschamps ça, hein. On en parle dans quelques instants, tout de suite.
RMC, 22h, minuit. L'Afterfoot.
Karine Galli.
23h16, vous êtes sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit avec Maxime Chano, avec Lionel Charbonnier. On parle de Ryan Cherki, le buteur des Bleus hier, malgré la défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Et on accueille Julien, supporter lensois, mais aussi suiveur des Bleus au 32-16 sur RMC. Bonsoir Julien.
Salut Julien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Julien.
Avec le temps, vous me reconnaissez.
Julien, nous allons parler avec toi de Ryan Cherki parce qu'il a été important hier. Évidemment, il y a beaucoup de ballons qui sont passés par lui. Il a été assez étincelant. Et puis, il y a aussi des déclats qui font évidemment parler. Je te propose, avant que tu nous dises ce que tu en penses, d'écouter Ryan Cherki au micro de TF1 hier soir.
Comme je l'ai dit et je le répète, on n'ira pas à la Coupe du Monde pour être favori, on ira pour écraser tout le monde.
Et voilà, donc cette déclaration lâchée par joueur de Manchester City de 22 ans.
Content,
et évidemment, ça n'a pas beaucoup plu à Didier Deschamps.
Ça, parce que j'ai trouvé hyper frais, moi, dans le reste oui. et tout. J'ai trouvé génial.
Ben oui, mais tu sais très bien que Didier Deschamps, il aime bien quand même les déclarations assez polissées. Et il y a quelques jours, et ça n'avait rien à voir avec Ryan Cherki, il avait dit qu'on arrête de nous dire qu'on est déjà favori et qu'on a rendez-vous à New York le 19 juillet parce que, évidemment, ça sera compliqué. Mais Julien, qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration qui est effectivement très naturelle, fraîche?
Ben, je trouve que c'est une déclaration au mieux maladroite, mais au pire hyper arrogante. Mais moi, j'en veux pas spécialement à Cherki. Au contraire, j'aime bien le joueur. Moi, je trouve que derrière cette citation d'un joueur, il y a plus un état d'esprit que je trouve trop relâché. Et c'est jamais bon avant une compétition. Et l'équipe de France, quand elle gagne, c'est toujours en étant dans un état d'esprit humble. Et inversement, quand une sélection fait ce genre de citation de la part d'un joueur avant un tournoi ou même pendant, c'est plutôt en général là qu'il y a le fameux karma qui peut jouer. Donc c'est pas trop à Cherki que j'en veux, mais c'est plus, j'ai l'impression qu'il y a une mentalité qui est un peu trop au relâchement. Et c'est ce que Deschamps a, semble-t-il, déjà pointé en interne.
Je suis d'accord avec toi et j'entendais un joueur de la Coupe du Monde 2002 qui avait expliqué justement un petit peu, qui avait fait la comparaison entre 98 et 2002 où il est arrivé avec beaucoup de certitude et peut-être même trop de certitude en dilettante. Mais la problématique de ce scénario-là, en tout cas de cette histoire-là, c'est que c'était les cadres qui avaient agi de cette manière. Là, c'est Ryan Cherki, c'est un jeune joueur, il manque un peu d'expérience. J'ai bon espoir d'imaginer que Deschamps est derrière, que Mike Maignan est derrière, que Kylian Mbappé avec son expérience est derrière. Est-ce que c'est une erreur de communication? Lionel. Je trouve ça très frais de sa part. Il arrive avec le sourire, ça a l'air d'être un bon gamin, il est bien intégré au groupe. Voilà, c'est vrai que connaissant aussi Deschamps, j'imagine qu'il risque de remonter les oreilles de son joueur. Ça a été le cas avec Hernandez d'ailleurs au mois de mars, quand il s'était positionné en disant voilà, la France ultra favorite. Il ne faut pas trop lui en tenir rigueur. Maintenant, je suis d'accord avec notre auditeur. Attention que ça ne se retourne pas contre eux. Mais bon, voilà, c'est encore un jeune joueur.
Non, tu as raison, il va être recadré. Et Julien, moi, je te rejoins aussi. Mais je pense que là, tu vois, on a vraiment retenu, Karine, ce petit truc, écraser tout le monde. Ouais, mais c'est parti comme ça parce qu'il est parti en Javel, il avait fait un bon match et puis il s'est lâché.
De toute façon, il a un côté très insouciant, très naturel.
Il a 22 ans, voilà.
C'est pas la langue de bois du Goloris, par exemple. Mais Didier Deschamps, c'est vrai que
il n'aime pas.
Voilà.
Cette phrase-là, ce mot-là, il va pas l'aimer. Mais le reste, honnêtement, open bar, moi j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très frais, très avenant, souriant, voilà. Et puis après quand quand je le voyais faire ses interviews comme ça, j'avais ce que disait Pep Guardiola. Il disait mais c'est un grand gamin. Il dit ce gars-là, il rentre sur le terrain, il joue, il s'amuse. Il est là pour jouer au foot. Il est tout le temps dans l'amusement. Il est resté comme ça. S'il arrive à rester comme ça, ok. Alors après, il va falloir soigner. Effectivement, il y a un ou deux mots, il va falloir qu'il fasse attention. Oui. Mais le reste, faut pas qu'il change.
Il faut que ça soit plus polissé. Voilà.
Oui.
Il verra après avec ZZ, mais là avec Didier Deschamps, effectivement,
il va se former. C'est normal.
On est plus dans la langue de bois. Julien, c'est vrai que Didier Deschamps, en plus, a vraiment demandé à tout le monde, voilà, qu'il fallait surtout pas qu'il y ait une enflammade, qu'il voulait qu'il y ait évidemment beaucoup de sérieux, qu'il n'y ait pas un excès de confiance. Et donc là, cette déclaration, ben voilà, elle est plutôt dans le jardin des gens qui disent on a déjà la troisième étoile sur le maillot. Même si lui, Ryan Cherki, c'est pas ce qu'il a dit, bien évidemment.
Non, bien sûr, c'est pas ce qu'il a dit, mais après, je trouve que c'est aussi là vraiment le rôle de Deschamps de faire un recadrage à une échelle collective. Parce que, par exemple, sur le but égalisateur qu'on prend hier, c'est parce que je trouve qu'on n'est pas assez agressif sur notre phase défensive à nous. Et typiquement, un joueur comme Ryan Cherki, ce serait le joueur, ou lui, ou si assez doué à la place. Ce serait le joueur qui pourrait davantage se replier au milieu de terrain pour, en phase défensive, être plus présent, notamment dans le milieu, et essayer davantage d'intercepter. Parce que hier, sur le but ivoirien, franchement, on se fait transpercer de A à Z. Et peut-être que derrière cet état d'esprit un peu relâché, il y a ce petit problème défensif qui fait qu'on va pas être assez agressif et pas assez regroupé, alors que faudrait se replier plus vite en phase défensive et avec au moins un joueur des quatre de devant qui se replie plus vite, quoi.
C'est toujours la difficulté de trouver le juste milieu aussi entre la mentalité d'attaquer et la mentalité de défendre. C'est pas facile quand t'as des joueurs offensifs.
Cette transition, Max,
moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
Tu sais très bien, quand tu vois tes attaquants, toi, quand tu vois qu'ils perdent la balle et puis qu'à la demi-seconde, ils sont déjà debout, t'en as un qui est derrière pour empêcher la première relance, soit tu sais que derrière, ça va bien se passer.
De toute façon, Lionel, tu sais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Tu gagnes en demi-seconde.
À la perte de balle passée, passer d'un mode de créateur, d'artiste, parce que c'est un artiste, à un mode tout de suite de guerrier, parce que tu dois être là, mettre à la limite le premier tacle pour récupérer la balle. Lui, Cherki le fera pas, mais il faut qu'il ait ce petit repositionnement empêcher l'angle de passe.
Et c'est ce qu'on voit avec équipes de très haut niveau en Europe, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich de Vincent Kompany, où est-ce qu'ils ont justement cette tendance à, une fois qu'ils perdent le ballon, dans les 5 secondes qui suivent, voilà, tous les joueurs les plus proches du ballon essaient justement de récupérer en faisant un contre-pressing. Voilà, c'est la mentalité de l'équipe de France qui doit absolument être appliquée si justement ils veulent aller au bout de cette compétition, parce que on l'a dit, on gagne une compétition évidemment avec une ligne d'attaque performante, mais surtout avec une défense performante. Et pour avoir une défense performante, c'est pas uniquement les 4 derrière et le gardien de but, c'est le bloc équipe. Voilà, c'est à 11 que tu défends. Alors peut-être à 10 si Kylian Mbappé décide de la jouer à la Real Madrid, on va pas rentrer dans les polémiques, mais en tout cas il va falloir avoir un bloc équipe très fort et surtout avec une mentalité défensive que Didier Deschamps connaît très bien puisqu'il nous l'a prouvé sur les dernières années.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC. On accueille Jordan également, qui est avec nous sur RMC. Bonsoir Jordan.
Ouais, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Jordan.
Jordan, on parlait de Ryan Cherki parce que c'est vrai que c'est le joueur qu'on retient évidemment par rapport au match de hier, tant sur le terrain que sur ses déclarations. Il amène un vent de fraîcheur, c'est vrai que c'est la nouveauté. Il était très souriant, il était très à l'aise, il a marqué un très joli but et c'est aussi ça évidemment le plus
dans
important.
Dans un espace très réduit.
Dans un espace très, très réduit. Et on entendait même certains dire ça sera le Ribéry de 2006, parce que les gens adorent les
comparaisons. Moi, j'ai entendu Zidane, moi.
Aussi, mais j'ai entendu ça, Ribéry 2006. Voilà, il y a plein de comparaisons. Ouais, les gens
Ribéry
aiment ça.
Ribéry 2006, pas mal aussi. Hein.
Jordan.
Oui.
Qu'en penses-tu?
Moi, j'ai beaucoup de mal avec le joueur. Alors, j'enlève rien à son talent. Je pense que c'est un joueur qui est extraordinaire. Mais je pense aussi que c'est un joueur qui gagnerait à épurer, à simplifier son jeu. Parce que en fait, tu vois, bon, certes, il a touché beaucoup de ballons, il a touché 80 ballons en une heure de jeu, mais bon, parce qu'il demande beaucoup de ballons, parce que c'est son jeu. Mais en fait, je trouve moi qu'il ralentit énormément le jeu. C'est pas fluide. Il fait 4 touches de trop. Des fois, tu sais qu'il va la passer à certains joueurs. Tu sais que c'est à lui qui va la passer, mais il va mettre 10 secondes de trop. Et bah, je sais pas. Moi, j'ai quand même un peu de mal avec ce joueur. Sur un jeu qui est pas assez épuré, il y a trop de trop en fait.
De déchets, tu l'as dit, et ça allait en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ça a été flagrant. Après, quand tu as des joueurs autour de toi comme Dembélé et Mbappé, peut-être qu'ils ont tout à gagner aussi à lui parler et lui dire de libérer le ballon très très rapidement. Mais bon, il y a une réalité aussi. Quand tu as un artiste comme Cherki, ben aussi tu dois accepter le fait qu'il perd des ballons parce que c'est comme ça, c'est aussi la beauté du foot. Maintenant, je réitère mon analyse que j'ai fait un peu plus tôt, Lionel. C'est est-ce que Didier Deschamps va prendre le risque justement d'intégrer un joueur qui est mesure de pouvoir déséquilibrer l'équipe.
Titulaire pas tout le temps, non, je pense pas. Après, il va apprendre à le connaître. Le groupe va apprendre à le connaître. Après, Jordan, je pense que je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Ça va être son axe de progression d'épurer son jeu, soit pour les sorties de balles des défenses, les sorties défensives, soit aussi pour accélérer. Et là, t'as parfaitement raison. Des fois, il fait 3-4 touches de balles dans la zone de construction. Il pourrait y aller en une touche, en un pas, Eva. voilà, demandé ça, dans ouais. le dos, il serait nettement meilleur. Bon, ça, c'est son axe de progression. Mais par contre, qu'il garde la balle, qu'il ait la balle, qu'il soit, tu vois, qu'il la garde 4-5 fois, qu'il soit dos au but, qu'il garde beaucoup de ballons, ça, c'est très important, je trouve, de, surtout dans les espaces réduits, parce que, et notamment s'il est dos au but, comme il demande souvent le ballon dos au but aussi le long de la ligne des 16, dans les 20 mètres, ça, c'est très important qu'il la garde, parce que ça peut créer aussi un deux solutions, c'est-à-dire en gardant le ballon, déjà ça va resserrer deux défenseurs qui vont venir sur lui et qui vont créer un espace derrière. Deux défenseurs qui se resserrent sur lui, ça crée un espace sur le côté. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça va être les coups de pied arrêtés, parce que c'est un homme à faute, hein. Et ça, c'est important. Mais il faut qu'il fasse ça, mais dans les 20 derniers mètres. Le reste, je te rejoins.
Je pense que c'est aussi, ça dépend aussi de la configuration du match, de l'adversaire.
C'est ça, bien sûr.
Parce que bon, après, on connaît Dédé et bon, moi, je reste persuadé comme Max que ça sera du 4-3-3 avec un milieu beaucoup plus solide contre un gros adversaire. Et après, oui, Cherki, je pense que ça peut être un très bon conservateur de balles, sur des grosses équipes ou quand tu mènes 1 ou 2-0 et que tu joues ta qualif, etc. Mais après sur les compos de départ,
non.
Moi je reste persuadé que tu seras sur un 4-3-3 avec
dès le premier match. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense qu'on va débuter avec cette fameuse quatuor offensive. Par contre, je lance les paris et on verra évidemment en fonction du match contre le Sénégal. Je suis convaincu, mais vraiment, et on verra, on fera le bilan à la fin de cette compétition, que Deschamps va vite réintégrer son 4-3-3 et faire rentrer un troisième milieu de terrain et forcément.
Donc par exemple, l'Allemagne, c'est possible. On peut les affronter rapidement dans la compétition. Face à l'Allemagne, par exemple, tu te dis, même il y a 3.
Si ça fonctionne jusqu'à l'Allemagne ou jusqu'à une grande nation, je pense pas. Je pars du principe que si jamais il y avait un accrochage contre le Sénégal ou que ça se passait moins bien contre l'Irak, tu sais jamais. Aujourd'hui, l'Irak a fait 1-1 contre l'Espagne, alors évidemment avec une Espagne remaniée, mais ça existe dans le football et aujourd'hui, t'es pas à l'abri de faire un mauvais résultat ou d'une contre-performance.
L'Arabie Saoudite face à l'Argentine en 2022.
Je serais pas surpris de voir Deschamps revenir à son schéma préférentiel, c'est-à-dire avec ses trois milieux de terrain. Au moins, on se poserait plus de questions de savoir qui défend, qui défend pas. Et puis, la réalité, c'est que même si on s'est ennuyé avec Deschamps pendant X et X années, mais il a fait gagner l'équipe de France. Dans ce schéma-là, c'est la dernière compétition de Deschamps. Qu'est-ce qu'il préfère? Qu'on se rappelle de lui comme du football champagne et sortir en quart de finale? Ou bien essayer d'aller au bout? Après, s'il peut avoir les deux, pourquoi pas? Mais voilà. On en reparlera. Je prends les paris.
Merci beaucoup Jordan d'avoir été avec nous sur RMC. Belle Coupe du Monde à l'écoute d'RMC. On vous rappelle également que vous pouvez écouter tous les podcasts des 48 nations. Vous savez que c'est la première Coupe du Monde à 48 nations et RMC vous propose des podcasts qui vous présenteront les 48 équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde 2026. Rendez-vous sur YouTube. Dans quelques instants, on continue évidemment l'After Foot avec l'Angleterre, notamment l'un des favoris de la Coupe du Monde. Julien Laurent est avec nous et puis toutes les informations du jour. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.
Karine Galli. 23h33 en direct du studio Roland Courbis. On est ensemble jusqu'à minuit avec Lionel Charbonnier et Maxime Chanot. Et ne manquez pas dimanche soir un after absolument exceptionnel en direct de Dakar. Une émission qui sera consacrée donc au football sénégalais à 9 jours du match France-Sénégal. On rappelle évidemment que c'est l'entrée dans la compétition pour l'équipe de France face au Sénégal. Ça avait été la même chose en 2002. C'est de 20h à 22h en France. En heure locale, c'est de 18h à 20h. L'émission se tiendra à l'Institut français de Dakar. Et donc, si vous voulez assister à l'émission, l'entrée est libre et gratuite. Il y aura notamment Souleymane Diawara et d'autres anciens internationaux aux côtés de Gilbert Bribois. Donc, ne manquez pas cette émission exceptionnelle dimanche soir en direct de Dakar. Et maintenant, on part en Angleterre. Nous allons retrouver Julien Laurence. Bonsoir, Julien.
Salut Karine, salut à tous.
Salut Julien,
on va parler de l'Angleterre. On le sait, l'Angleterre a évidemment des ambitions dans cette Coupe du Monde 2026. Et demain, l'Angleterre va jouer son premier match de préparation. Ça sera face à la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est qualifiée pour le Mondial. Et puis après, il y aura le Costa Rica. Dis-nous tout sur cette préparation. On sait que Tourelle a été un petit peu tensé et chahuté par rapport à ses choix de groupe, par rapport aux choix des joueurs qui font partie de la sélection 2026. Est-ce que la préparation se prépare bien et qu'est-ce qu'on attend côté anglais pour demain? Parce qu'on a vu déjà des surprises, l'Espagne qui a fait un but partout, la France qui a été battue par la Côte d'Ivoire.
Ouais, alors on a laissé de côté un petit peu forcément maintenant les commentaires et les débats autour de la sélection et du groupe qui l'a emmené aux États-Unis, parce qu'on attend maintenant et les matchs amicaux, dont tu l'as dit, celui de demain déjà, et ensuite celui du Costa Rica, et puis après, bien sûr, le début de la compétition. Les Anglais jouent assez tard, puisqu'ils sont dans les derniers groupes aussi, dans le dernier groupe d'ailleurs de cette Coupe du Monde.
Ils 17 sont arrivés juillet, le premier match, effectivement, ça, face à la Croatie. Ouais.
Contre la Croatie, ils sont arrivés mardi en Floride du Sud, où ils n'ont pas eu de très beau temps pendant les 4 premiers jours. C'est qu'aujourd'hui où il a fait très très beau, mais sinon il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie. Mais Tuchel dit qu'ils se sont très bien entraînés toute la semaine. Ils ne sont pas au complet encore, puisque Dean Henderson n'a rejoint le groupe qu'aujourd'hui, et les 4 gunners d'Arsenal, eux, n'arrivent que demain. Donc rejoindront l'équipe que demain, avant le match. Donc je ne pense pas qu'ils seront impliqués dans la rencontre de demain, mais on sait déjà par exemple que Tuchel a prévenu que ce serait finalement un match d'entraînement en fait, et que chaque jour aurait 45 minutes.
Turnover.
Il va tout changer à la pause. Un peu plus que ce que Deschamps a fait par exemple hier pour nous les Français. Donc lui, il aura un 11 de départ, un 11 pour la seconde période aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, dans ce qu'il a voulu faire sur cette première semaine, c'est pas quasiment une semaine, puisque de mardi à samedi, on va dire, mais il a voulu une reconnexion par rapport au style de jeu et au principe de jeu qu'il va mettre en place pour cette Coupe du Monde. Aussi, au niveau du fitness, ils ont pas mal travaillé sur cet aspect-là. Et puis surtout, beaucoup de temps libre, il a dit, pour que les joueurs se retrouvent, se rassemblent, passent du temps ensemble. C'était très important pour lui. Donc ces derniers jours, il y a eu de l'entraînement, bien sûr, et à assez haute intensité, même dans la chaleur, même dans l'humidité. Mais aussi, pas mal de temps libre, finalement, pour que les joueurs puissent se reconnecter entre eux aussi.
Juju, j'ai l'impression qu'il le prend plus, tu vois. Bon, OK, c'est son premier poste de sélectionneur à Tuchel, mais il s'est dit que ce soit dans la composition de sa sélection et que ce soit aussi dans tout ce que tu viens de nous dire, et notamment apprendre à se connaître et tout ça, il prend pas une sélection, il veut créer une équipe. C'est le gros changement qu'il veut mettre, plutôt que de privilégier des individualités qui viennent faire une sélection. Lui veut une équipe plus qu'autre chose, non?
Ouais, c'est ça, t'as raison. Mon Lio, t'as raison, c'est ça. Depuis le début, en fait, il met beaucoup l'accent sur l'état d'esprit, la mentalité. On se rappelle bien sûr du débat qu'on a souvent eu autour de Bellingham, et je pense que jusqu'à très tard, il a vraiment pesé le pour et le contre sur le fait d'emmener Bellingham ou pas à la Coupe du Monde. On sait que Trent Alexander-Arnold n'est pas là, probablement plus pour des raisons collectives, tu vois, que son talent individuel, qu'il y a le ballon. Tu vois, il y a rien à en dire, vraiment. Mais oui, il y a ça, et d'ailleurs, à l'écouter encore aujourd'hui, sincèrement, c'était fascinant. Alors moi, j'aime beaucoup, on l'a beaucoup fréquenté quand on avait les droits sur RMC de la Première Ligue, par exemple, qu'il était à Chelsea, donc je suis peut-être un petit peu partisan dans un sens, mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit en conférence de presse, à la radio, à la télé, sur ce besoin, effectivement, de se reconnecter ensemble, mais aussi de reconnecter par rapport au plan de jeu... Sincèrement, c'était vraiment fascinant à écouter. Alors, c'est quand même très intelligent, mais je pense qu'effectivement, comparé à d'autres, alors Southgate, lui, avait trouvé cette reconnexion-là, mais c'était un petit peu différente. Il avait pacifié tout l'environnement autour de la sélection. Il avait fait des choses qui étaient vraiment très bien. Même, vous savez à quel point j'étais pas trop fan de Southgate au niveau tactique et technique. Mais sur le reste, il avait vraiment fait du très bon travail. Pour moi, Tuchel, c'est encore le niveau au-dessus. Et alors demain, je sais pas ce qu'on pourra en tirer vraiment, parce qu'avec deux équipes sur 45 minutes, c'est compliqué contre une équipe qui va beaucoup défendre déjà. Mais ensuite, pour l'instant, en tout cas, moi, je trouve que qu'on soit d'accord ou pas, on avait parlé beaucoup avec Maxime, d'ailleurs, on était le soir ensemble aussi.
On a perdu Julien Laurence, on va le retrouver dans quelques instants, évidemment. Il nous parlait des choix de Tuchel et du fait, c'est vrai qu'en fait, il a vraiment envie. Ah, Julien, on t'a retrouvé.
Pardon, oui.
Non, aucun problème.
Mais juste pour finir, je disais. Que les choix qu'il avait fait, on en avait parlé le soir de la liste, on était ensemble avec toi Karine et avec Maxime aussi. Au moins il y a un sens, si tu veux, et une justification de sa part à lui, et une logique finalement pourquoi il a pris effectivement les 26 joueurs, plus peut-être le réserviste, mais qui sont pas forcément les 26 meilleurs joueurs du pays, comme Deschamps le répète souvent aussi, mais les 26 qui feront sûrement la meilleure équipe, encore une fois, pour rejoindre le point de Lionel.
Ouais, j'appuie votre analyse par rapport aux joueurs qu'il a laissés sur le côté. Hein. On a parlé d'Alexander Arnold, mais il y a Foden, hein, le joueur de Manchester City, Cole Palmer surtout. Moi, c'est vrai que malgré la saison un petit peu compliquée de l'anglais, je l'aurais quand même choisi. Moi, j'ai envie de te poser une question, Julien. Cole Palmer pas sélectionné, si jamais Tuchel n'avait pas sélectionné Bellingham, est-ce que ça aurait vraiment fait scandale en Angleterre, d'autant plus qu'on connaît un petit peu les tabloïds, et c'est ce qui a aussi porté porter préjudice à cette équipe d'Angleterre. C'est un peu la pression médiatique depuis toutes ces années. Toi, comment tu vois la situation par rapport à Bellingham, qui est décrié en tout cas en équipe nationale? On sait qu'il a mis sur le banc quelques matchs récemment. Voilà. Est-ce que Bellingham garde quand même les faveurs de Tuchel et surtout de l'opinion publique? Parce que les Anglais ont quand même besoin de se retrouver derrière leur star, derrière une star. C'est un peu le cas en équipe de France avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Là, c'est vrai qu'avec l'absence de Cole Palmer, de Foden, des joueurs, alors évidemment, il reste d'autres joueurs derrière, mais des joueurs quand même majeurs. Est-ce que Bellingham garde quand même cette, voilà, cet aspect de leader technique de cette équipe nationale d'Angleterre?
Sincèrement, c'est une super question et sincèrement, personne ne sait en fait. Et on aura peut-être un élément de réponse demain, parce que si l'attaque de l'Angleterre demain, c'est Kane et Rodgers en 10 par exemple, ben on saura que c'est sûrement cette attaque-là qui va débuter la Coupe du Monde contre la Croatie. Si Bellingham est titulaire dans la première équipe, parce que je pense encore une fois que les 11 des 45 premières minutes seront ce qui se rapprochera sûrement du 11 titulaire sans les joueurs d'Arsenal, quoi, donc sans Rice et sans Saka surtout. Mais après, tu vois, pour le reste, on ne sait pas en fait ce qu'attend Bellingham. On ne sait pas dans quel état d'esprit il est lui.
C'est
déjà.
Ça. Quelle est aussi la réputation de Bellingham dans le groupe? Parce que quand tu es joueur du Real Madrid, que tu es presque la star, on ne va pas se mentir. Évidemment, il y a d'autres joueurs, Harry Kane et compagnie, Saka. Mais quelle est la mentalité un petit peu de ce joueur? On a fait le parallèle avec Deschamps. Deschamps, il veut une équipe. Tuchel a l'air d'être sur la même longueur d'onde. Il veut créer un groupe. Est-ce que tu penses que c'est le genre de joueur qui pourrait foutre un petit peu, on s'est compris, dans cette sélection?
Bah oui, si on retourne 2 ans en arrière à l'Euro 2024, on sait qu'il y a eu des tensions, on sait qu'il y a eu des soucis avec Southgate, avec certains autres joueurs dans le vestiaire, et qu'à un moment, c'est ce qui a aussi poussé Tuchel à avoir cette réflexion sur est-ce que je l'emmène, est-ce que je l'emmène pas,
est-ce que c'est un risque
si je l'emmène. Tout à fait. Et après, on sait toujours pas même la réponse, pas simplement Jude lui-même, mais les gens autour de lui, dans son entourage, etc., etc. Il y a quand même eu des moments très compliqués depuis qu'il est avec l'Angleterre. Le talent est pas du tout, tu vois,
il y a
pas de débat autour du talent.
On le sait, ouais.
Voilà. Mais après, c'est vrai que sur sa personnalité et son statut, en tout cas le statut que lui aimerait avoir ou qui souhaiterait lui être donné et celui qu'il a, il y a peut-être une différence effectivement qui à un moment pourrait causer problème, mais pour l'instant, en tout cas côté anglais, on entend que ça se passe plutôt bien pour tout le monde, mais encore une fois, on en est qu'au début, ils sont arrivés il y a 5 jours.
Mais là, Juju, avec Tuchel, quand même, le contexte semble complètement différent. C'est peut-être aussi pour ça que tu sais très bien comment ça se passe. Tu prends le même joueur, tu le mets dans un contexte différent, il va émerger ou alors il va complètement sombrer selon le contexte. Et là, avec Tuchel, qui met l'accent sur l'équipe et qui doit pas arrêter de, enfin, à mon avis, il doit leur rabâcher qu'il y a personne au-dessus de l'institution et même Bellingham, le gars peut rentrer dans le rang et ça peut bonifier, je pense, cette équipe. Et c'est peut-être justement l'année où ça peut très très bien se passer pour l'Angleterre.
Ouais, tout à fait. Moi, je pense que ça va très bien tourner avec Tuchel. Mais
ça me fait peur pour la France. Ouais.
Ouais, mais après,
c'est la première fois que les Anglais me font peur.
Ouais, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Alors après, il y a quelques limitations sur certains postes, qui est tout à fait normal aussi, tu vois. Et puis il y a peut-être une dynamique malgré des éliminatoires qui ont été excellentes. On l'avait dit la dernière fois déjà, mais les 3 matchs, donc sur les éliminatoires, ils font un sans faute. Sur les 3 matchs qu'ils jouent contre des mondialistes, en revanche, il y a 0 victoire. L'Uruguay, le Japon et le dernier que Uruguay, Japon et Sénégal. Donc bon, après ça c'est pour un autre débat, on en parlera plus près de leur début de la compétition. Mais pour revenir sur Bellingham, Tuchel c'est le patron. Et Tuchel, il n'en a rien à faire du nom, de la réputation, du palmarès, du CV, du tout ce qu'on et ça on le savait déjà avant. Il l'avait déjà dit très souvent. Il fera ses choix et ses choix seront dictés par peut-être une autre motivation que juste prendre les plus grands noms et les meilleurs parce que on ne veut pas s'attirer des problèmes, on ne veut pas avoir les médias à dos, etc. Et lui, on n'a rien à faire. Mais sincèrement, il est là pour la Coupe du Monde. S'il la gagne, il deviendra une légende et tout ce qu'on veut. S'il ne la gagne pas, il va se faire défoncer. Mais ça, il le sait très bien de toute façon.
Comment
il l'a accepté?
Toi, tu les vois gagner? Alors,
je vois aller très loin.
Moi, ils me font peur. Moi, ils me font peur. Avec toi, ils me font très peur.
Tu les sens plus armés, par exemple, sur les dernières compétitions? Comme ça, d'un point de vue...
Je les sens plus en confiance, en fait. J'ai l'impression que Tuchel a donné, mais après, Tuchel est comme ça. Tuchel, il transmet cette confiance-là, Il a encore parlé aujourd'hui aussi de. Il dit, parce qu'à un moment, on lui a posé la question sur la frustration. C'était un peu frustrant d'avoir toute la pluie, par exemple, les premiers jours. Le terrain, demain, ils vont à Tampa pour le match contre la Nouvelle-Zélande. Le terrain n'est pas en très bon état. Il dit, est-ce que vous êtes. Et on lui a posé la question, est-ce que vous êtes frustré par tout ça? Il dit, mais de toute façon, faut pas qu'on. La frustration, elle ne peut pas apparaître pendant cette Coupe du Monde. C'est pas possible. Il faut qu'on reste calme. Il faut qu'on reste concentré. Et ça, il le transmet très, très bien. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus prêts à ce niveau-là. Ils savent aussi qu'ils ont un entraîneur, contrairement à Southgate, qui tout le monde savait qu'il avait un peu des limites tactiques. Et après, c'est pas que sur lui, mais avec Tourelle, ils savent très bien que à ce niveau-là, au niveau coaching, au niveau tactique, au niveau game management, tout ce qu'on veut, c'est le top du top. Et ça, les joueurs se sont très bien rendus compte très rapidement.
Ils le sentent.
Et donc, je pense qu'il transmet vraiment cette confiance. Et qu'après, malgré certaines limites et certains manquements dans certains postes, je pense qu'ils vont être, ouais, ils vont être embêtants à jouer. Et ça peut être très très solide et ça peut aller aussi très vite vers l'avant et ça peut faire mal.
Julien, la valise est prête. C'est le départ dimanche, c'est ça?
Dimanche, ouais, quasiment. Je finis un peu, tu vois, quelque chose de foot au cas où je joue un petit peu, tu vois, les baskets.
N'oublie pas la crème solaire, hein.
Ouais, la crème solaire, tu as tout à fait raison. Ouais, quelques shorts aussi.
Ah oui, c'est vrai que la crème solaire, j'y avais pas pensé.
Bah, très vaut bien. Mieux, ouais, avec le soleil, ouais.
Oui, oui, non, mais bah, excuse-moi, je me suis pas dit qu'on partait aux Bahamas, et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais
attention, les États-Unis, au mois de juin et juillet, messieurs.
La crème solaire.
Il fait très, ouais, très chaud.
Mais on bronze bien chez le Laurence, donc ça va.
Merci beaucoup, Julien. Et on rappelle également qu'on peut te retrouver justement dans ce fameux podcast Angleterre. Tu étais aux côtés de Andy Brassel, un ancien journaliste, notamment du Guardian, pour parler des chances de l'Angleterre. Merci beaucoup. Demain, donc, on rappelle que l'Angleterre et sera opposé à la Nouvelle-Zélande. Dans quelques instants, un point sur toutes les informations du jour. Les délires de Florentino Pérez, quel mercato pour le PSG, Bodmer à Caen, ou encore évidemment Lamine Yamal qui a été sacré meilleur joueur de Liga. Tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h48, vous êtes sur RMC avec Lionel Charbonnier, Maxime Chanot. Messieurs, les informations du jour, il y a pas mal de choses bien évidemment. Nous allons parler notamment de Lamine Yamal qui vient de recevoir le titre de meilleur joueur de Liga. C'est la première fois pour le jeune international espagnol. Il succède à Rafinha. Logique ?
Logique. Logique, logique, même si évidemment il y a cette blessure, moi je trouve que c'est logique, il représente la Liga, évidemment, bon, on va pas parler de l'aspect collectif du FC Barcelone, hein, qui a, on le rappelle, gagné le championnat. Après, évidemment, il a l'aspect extra-sportif, mais bon, ça rentre pas en compte, moi, qui me gêne un petit peu sur ce joueur, qui, j'ai un peu peur qu'il se perde un peu, on verra, c'est encore très tôt pour en parler, mais on en a vu, hein, des grands talents, on en a vu des grands talents réussir dans le ballon, et puis qui se sont un petit peu perdus sur l'extra-sportif, je pense notamment à Neymar, bon, on en est
et
pas là.
Et c'est son idole.
Et c'est son idole, on en est pas là, mais c'est vrai que comme quoi tu te rends compte que l'entourage d'un footballeur professionnel est très, très important et super précieux. Maintenant, voilà, rendons à César ce qui appartient à César, et faut être honnête que c'est un joueur fantastique, c'est un joueur qui, enfin, en tout cas moi qui est un grand fan de foot, c'est pour ce genre de joueur que je paye mon ticket au stade, ou en tout cas que je les commente sur RMC. Donc ouais très très heureux pour lui, et puis en espérant maintenant qu'il redresse la barre et qu'il puisse avoir une carrière non pas à la Neymar mais pourquoi pas à la Messi.
Lionel, un petit mot sur le mercato parisien, ce sont des informations RMC Fabrice Hawkins, parce que évidemment le PSG est double champion d'Europe, mais il travaille quand même sur le mercato, alors a priori pas de grand bouleversement, on s'y attendait, mais il pourrait y avoir les départs de Kang In-Li, de Gonzalo Ramos. On nous parle également de profils qui pourraient intéresser le PSG, notamment des profils défensifs. Alors Marquinhos veut rester, mais on chercherait quand même un défenseur, et notamment il y a une interrogation pour le côté gauche, donc que ce soit défenseur gauche ou même arrière gauche. Est-ce que pour toi c'est vraiment là que le PSG doit recruter, si recrutement il y a, parce qu'on rappelle que l'an dernier il y a eu deux recrutements, ça n'a pas marché, que ce soit Zabarni ou Lucas Chevalier.
Ouais, exactement. Donc il va falloir faire attention parce que c'est quand même deux gros investissements. Ils peuvent pas se tromper tout le temps. Alors Zabarni, peut-être qu'il va monter comme ça en progression et que il a besoin de connaître le club, de s'acclimater et tout ça. Maintenant, moi je pense que de toute façon dans le recrutement, ayant entendu analyser tout ce qu'a dit Enrique, il va y avoir pour moi du recrutement, mais dans la polyvalence, c'est-à-dire qu'ils vont recruter, ils sont capables de recruter un latéral gauche, mais capables de jouer axe gauche aussi. Oui.
Je pense que ça, j'en suis pratiquement persuadé. La même chose qu'il a, par exemple, sur le côté où il a Zaïre Emery avec Hakimi. Là, ça va être la même chose avec Beraldo et puis
Vitinha dans l'axe,
ouais, qui prend cette place-là, qui monte d'un cran. Donc la polyvalence, ça, j'en suis persuadé, ça sera pas un spécialiste du poste, mais ça sera un joueur qui sera très bon aux deux postes. Ça, j'en suis persuadé.
Ouais, je suis d'accord.
Après, le seul bémol, savoir ce que va faire Ramos, est-ce qu'il va vraiment partir ou pas, parce que là,
en tout cas, il souhaite pas les prolonger. A priori, que ça soit Lee ou Ramos, donc plutôt des départs.
Donc, s'il y a un départ, s'il serait capable de mettre, alors là, je pense pas qu'il y ait de la polyvalence, parce qu'il y a déjà de la polyvalence avec Dembélé.
Je pense à un vrai numéro 9
où il n'y a pas de polyvalence pour deux postes. Pour moi, c'est gardien de but et numéro 9. Le buteur, je parle du buteur.
S'ils partent, ils seront remplacés, donc ça, c'est aussi important. Et au niveau des prolongations en discussion, il y a celle de Bradley Barcola et celle d'Ousmane Dembélé également.
Barcola, très important. Je pense que s'ils peuvent le garder, s'il a envie de rester, s'il accepte cette situation-là, je pense que c'est important,
surtout,
parce que tu ne trouves pas mieux actuellement.
Surtout que tu as un turnover entre Barcola, Désiré Doué sur les côtés.
Voilà, après, c'est lui qui va décider. Et ils ont raison. De toute façon, ils ont mis l'accent là-dessus. Un joueur qui ne veut pas rester à Paris, on n'en retient pas. Ou un joueur qui ne veut pas venir,
un gros potentiel, je trouve qu'il fit bien avec
Moi,
le Paris Saint-Germain.
Moi, je pense que s'il reste, ça serait déjà une belle recrue.
En tout cas, je suis entièrement d'accord avec Lionel par rapport au chantier. Moi, j'avais parlé du gardien de but, que je pensais évidemment, éventuellement peut-être trouver un gardien avec une classe internationale, même si Safonov a fait le boulot. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à aller chercher en Europe? Je ne sais pas. Et puis moi, je pensais aussi à un backup à Marquinhos. On l'a vu en difficulté quand même sur certains matchs, et notamment cette demi-finale aller contre le Bayern Munich, avec un PSG qui joue quand même très haut, qui aime chercher les adversaires, avoir un défenseur un peu à la Pacho qui est en mesure de pouvoir couvrir son dos, c'est important.
Je pense qu'ils vont lui demander à Marquinhos ce qu'il veut faire. Et c'est lui,
ça discute en tout cas. Voilà, lui, il aimerait rester. Voilà, et l'idée, c'est qu'il reste, mais il pourrait y avoir un renfort. Maiolou est à un an de la fin de son contrat. Pour l'instant, il n'a toujours pas prolongé, mais des négociations se poursuivent. Messieurs, le délire de Florentino Pérez. Vous savez qu'il y a évidemment les nouvelles élections qui se rapprochent. Ça sera dimanche. Il espère être bien évidemment réélu. Et donc, il nous annonce à chaque fois des grands joueurs. Il y a Konaté qui devrait signer. Il y a également Dumfries. Et là, il nous parle d'un joueur à 150 millions d'euros. Ça serait la plus grosse recrue de l'histoire du Real Madrid. Et il serait donc question de Michael Olise. Mais en fait, moi, je ne comprends pas du tout le délire. C'est-à-dire que 150 millions d'euros, aujourd'hui, c'est pas dingue. C'est-à-dire que Neymar a coûté beaucoup plus cher, Ousmane Dembélé a coûté très cher à l'époque, Coutinho aussi. Enfin, 150 millions d'euros, on dirait qu'il nous annonce 500 millions.
C'est basé sur quoi les 150? Parce que je suis pas convaincu.
Mais surtout, le Bayern Munich le lâcherait jamais à ce tarif-là.
Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une clause libératoire dans son contrat? Ça, je sais pas, mais 150 millions, ça me paraît.
Moi, ce que je comprends, comprends pas le délire, c'est que ils font des élections. Pour moi, c'est un cirque. Ils sont en train de se faire des élections. Moi, je te ramène à Londres, toi, et l'autre, il va ramener. Élisez-moi parce que vous allez avoir de... Mais le problème, il n'est pas là au Real. Le problème, il n'est pas sur un joueur, il n'est pas sur un recrutement.
Oui, je crois que le Bayern n'est pas vendeur non plus. Donc
mais c'est du grand n'importe quoi. Mais il avait fait ça avec Figo, je crois, à un moment donné.
Oui, c'est ça, exactement.
Quand il avait fait, me semble.
Oui, c'est ça. Il avait fait un super documentaire. Il avait expliqué comment il l'avait récupéré.
Voilà, exactement.
En effet,
mais pour moi,
c'est de la politique.
C'est hallucinant. Et en plus, par contre, si c'est Florentino Pérez qui reste, pour moi, le chantier, il va falloir qu'il sache s'entourer. Parce que là, moi, je le trouve complètement dépassé actuellement. Donc, qu'il ait un peu des personnes. L'autre fois, je l'ai vu faire une interview. J'ai dit, mais il est à l'ouest.
Terrible. Lorsqu'il a voulu régler ses comptes et lorsqu'il a été notamment misogyne avec des femmes.
Il faut qu'il s'entoure. Parce que là, t'as l'impression qu'il résonne plus.
C'était pathétique. Messieurs, juste un petit conseil. À Olise, vous lui dites quoi? Reste au Bayern, t'es super bien là-bas. Ou le Real, ça se rate pas?
Moi, je reste au Bayern.
Tout dépend s'il a envie de voir du soleil. S'il a envie d'avoir du soleil, je lui dis va en Espagne.
Non, moi, je rigole.
Non, plus sérieusement, non, par rapport à la manière dont le Bayern a joué cette année,
Bayern, ce qu'ils ont fait.
Ce qu'est en train de faire Vincent Kompany, je pense que si ça continue sur cette lancée, le Bayern peut dominer l'Europe au même titre que le PSG est en train de le faire. Donc,
on s'y attendait, mais un accord de principe a été trouvé pour Mathieu Bodmer à Caen. Alors, on rappelle qu'il avait décidé de partir du Havre à l'issue de la dernière journée de championnat, mais il va rester en Normandie. Donc, c'est des informations de BFM Normandie que RMC peut confirmer. Il devrait arriver avec deux adjoints, Mohamed Elkaraz et Julien Maumont, qui étaient déjà avec lui au Havre. On rappelle que Caen a terminé 8e de National. Donc là, il serait dans la famille Mbappé. Vous trouvez que c'est un challenge exceptionnel, que c'est terriblement dommage de le voir en national alors qu'il a des compétences qui pourraient évidemment intéresser un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je trouve ça très surprenant de sa part, parce que c'est un directeur sportif avec énormément de qualité et qui rendrait service à beaucoup de clubs de Ligue 1. Maintenant, je trouve l'idée intéressante de la part du clan Mbappé, tout comme lui, la part du clan Bonnemère, c'est-à-dire c'est peut-être même une situation win-win. Il va arriver dans un club qui a énormément de besoins et en tout cas de besoins de qualité.
Il y a tout à faire.
Et bien justement, exactement. Et peut-être qu'il va arriver avec son CV, avec son expérience du très haut niveau. Je trouve que c'est une très très bonne idée de la part des deux.
Un petit mot, Lionel, rapidement, parce que je sais que ça te tient à cœur. Alors, on sait que Pélissier au Serre, c'est officiellement fini. Et donc, Zou a eu un message envers les supporters et il a voulu expliquer. Il demande de la compréhension et de la patience. Notre projet est désormais de se montrer plus ambitieux, de faire franchir un palier supplémentaire à l'AGIA. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de modifier le management de l'équipe professionnelle. On rappelle qu'a priori, ça devrait être Steele, le prochain entraîneur de Auxerre. Tu comprends ce message? Pour toi, il hors sol.
Oui, complet. Je comprends pas. Je comprends pas parce que on a jugé Pélissier cette année alors qu'on a changé 75% de son effectif. La première année, ça s'était très très bien passé. L'année de la montée, il avait conservé 80% de son effectif. Là, on a fait du tout au tout. Au bout de 6 mois, il arrive à faire jouer ses joueurs. Les joueurs sont. Je connais très très bien Christophe. En plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma rééducation avec le staff médical et tout ça. Je vois l'ambiance, tout ce qui. C'est franchement, le vestiaire était très très bien tenu. Et là, tu veux passer un palier supplémentaire. Tu changes ton entraîneur et tu prends Will Steele. Bah prends un mec qui a fait ses preuves. Mais ne sors pas Christophe Pélissier. Alors j'ai bien entendu que. Mais il doit pas rentrer dans les petits papiers de certains. Il y a des choses qu'il doit pas aimer Christophe aussi et ça les embête.
Donc le propriétaire en tout cas exprime sa confiance envers Baptiste Malherbe, le président exécutif, et il n'est pas du tout mentionné, le directeur sportif David Ventier, dans le communiqué. Donc affaire à suivre. Merci beaucoup messieurs d'avoir été à mes côtés. Merci à Flavien.
Salut à tous.
Et à Daniel qui est aux manettes de l'émission. Dans quelques instants, les nuits du Casar enchaînées avec les deux zigotos, bien évidemment. Ça se passe sur RMC. Belle nuit à tous.
RMC, l'after foot.